Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal, suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie doit profiter du leadership de Trump pour l'intérêt maritime. Les meilleures relations entre l'Indonésie et les États-Unis. Airlangga Hartarto apprécie le protocole d'accord entre Pupuk Indonesia Société Anonyme et Ferrostal. 104 étudiants indonésiens accueillant les bourses d'études d'Al-Azhar espéraient avoir une vision et une mission d'Al-Azhar. Et enfin, la ville de Bogor compile le projet de la gestion des déchets à base communautaire. Voici le journal complet. L'expert des relations internationales de l'Université Pajajaran, Tengku Reza Shah, a évalué que le gouvernement peut tirer parti de la direction du président américain Donald Trump pour contribuer à la réalisation de l'axe maritime. Pendant le leadership d'Obama, l'influence américaine dans la région d'Asie-Pacifique était vite comme ignorée. Ainsi, la République populaire de Chine a émergé, y compris avec les revendications dans la mer de Chine du Sud et de l'Est. Tengku Reza Shah a expliqué récemment que l'émergence de la Chine d'être un pays superpuissant a répondu par Trump avec une forte réaction sous la forme de la menace d'une escalade militaire. Il devrait être l'occasion pour le gouvernement indonésien d'offrir l'investissement et le développement des infrastructures de l'axe maritime qui est encore considéré comme pas trop fort. Selon Tengku Reza Shah, il y a certains domaines qui ne sont pas encore développés. Il pourrait être une possibilité de collaboration avec Donald Trump étant donné le désir d'arrêter l'hégémonie chinoise en Asie-Pacifique. Toutefois, afin de décider si le gouvernement va opérer avec la Chine ou les États-Unis, exige une étude approfondie et une attitude prudente. Le président Joko Widodo a félicité Donald Trump pour son investiture en tant que le 45e président des États-Unis. C'est ce qu'a prononcé le président Joko Widodo après avoir participé au championnat de tir à l'arc 2017 à Bogor dimanche le 22 janvier 2017. Le président Joko Widodo est optimiste. Les relations entre l'Indonésie et les États-Unis seront plus solides et offrent des avantages pour les deux pays. L'optimisme est également transmis par le président Trump qui reconnaît d'avoir assez des amis et des affaires en Indonésie. Comme l'a déclaré le président Joko Widodo, citant l'affirmation du président Trump. Comme l'a signalé le secrétariat présidentiel à Bogor, l'ouest de Java, dimanche, Donald Trump a officiellement été 45e président américain après avoir été nommé vendredi le 20 janvier 2017 à Capitol Hill, Washington, D.C. Après l'inauguration, Trump va bientôt commencer la tâche de diriger les États-Unis pendant les quatre prochaines années. Le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartarto, a apprécié le protocole d'accord entre Pupuk Indonesia Société Anonyme et Ferrostal afin d'accélérer le développement de l'industrie pétrochimique à la baie Bintuni, en Papouasie occidentale. Comme affirmé Airlangga Hartarto après avoir signé un protocole d'accord du PDG de Ferrostal, Klaus Lesker, au directeur d'investissement de Pupuk Indonesia Société Anonyme, Gus Rizal, à Düsseldorf, en Allemagne, samedi le 21 janvier 2017. Selon Airlangga, un protocole d'accord est une forme d'expression d'intérêt des deux sociétés afin d'évaluer les avantages des études communes est aussi une référence dans la construction du projet. Selon le ministère de l'Industrie, le développement de l'industrie pétrochimique dans la baie Bintouni a plusieurs raisons, entre autres le potentiel pour le gaz naturel dans cette région qui était identifié. 104 étudiants indonésiens accueillant les bourses d'études d'Al-Azhar sont arrivés entièrement au Caire en Égypte le 8 janvier 2017, ainsi que d'obtenir la direction et l'orientation de l'ambassadeur d'Indonésie au Caire, Helmi Fauzi, samedi le 21 janvier. Helmi Fauzi espère qu'il peut profiter de toutes les installations gratuites fournies par l'université Al-Azhar en Égypte aussi bien que possible. C'est ce qu'a affirmé Helmi Fauzi par un communiqué officiel envoyé au rédacteur en chef de l'Agence nationale des nouvelles de radio dimanche. Il a conseillé aux 104 nouveaux étudiants qui accueillent des bourses d'études pour être la lettre d'Azhari qui vivent en réalité la vision et la mission de l'Azhar, où ils sont censés être des ambassadeurs de l'Azhar qui portent et prêchent l'islam comme la religion qui apporte des bénédictions et la prospérité pour tout dans tout l'univers, et maintenir le bon nom à l'Azhar. La ville de Bogor, l'ouest de Java, est devenue l'un des pilotes projets nationaux en matière de gestion des déchets à base communautaire et de fonctionnaires à partir de l'an 2015. En 2015, on a tenu la formation de la place de gestion des déchets de réutiliser, réduire et recycler à Jakarta, et la ville Bogor est désignée comme un lieu de pratique, donc aussi en 2016. C'est ce qu'a affirmé le responsable du contrôle de l'environnement, la conservation et le changement climatique de l'Agence de l'environnement de Bogor, Diane Herdiawan, dimanche. Il a dit, outre la ville de Bogor, il y a aussi une ville de Malang qui développe la gestion des déchets à base de l'appareil d'État et la résidence de Malang avec la gestion des déchets à base communautaire. Il a affirmé, depuis 2016, la municipalité de Bogor a collaboré avec la ville d'Hiroshima à travers la coopération entre KLHK et JICA avec le programme du village de climat commun et le groupe de contrôle de la pollution de l'environnement et le changement climatique. Ce programme encourage les gens à se déplacer de la verdure dans le parc à la ligne verte et la page entière au niveau local, tout en continuant le programme de tri des déchets à partir de maintenant. Secrétaire, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Chers jurés et chanteurs, la crise vécue par les musulmans Rohingyas au Myanmar est devenue un problème international. À partir de la promulgation de la loi sur la citoyenneté birmanie en 1982, qui exclut les Rohingyas comme ethnie reconnue au Myanmar ou bien Birmanie, cette crise a attiré l'attention de la communauté mondiale et discuté dans le plusieurs forums internationaux. La dernière organisation de la coopération islamique, OCI, a tenu une réunion des ministres des Affaires étrangères à Kuala Lumpur, en Malaisie, le jeudi 19 janvier 2017, pour discuter des mesures à prendre pour résoudre le problème des musulmans Rohingyas à Rakhine, au Birmanie. En plus d'être actif dans le fora international pour résoudre le problème des musulmans Rohingyas, le gouvernement indonésien prend également d'autres mesures qui fournissent une assistance humanitaire aux communautés musulmanes Rohingyas dans l'état de Rakhine en Birmanie. L'aide humanitaire a envoyé par le président Joko Widodo du port de Tanjung Priok, Jakarta, le 29 décembre 2016, et ensuite, le ministre indonésien des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, l'a transmis à Sitwe Etarakhine le samedi 21 janvier 2017. L'aide humanitaire est composée de 10 conteneurs de nuit instantanée, farine de blé, la nourriture bébé et étui. Dans le discours à la livraison de l'aide humanitaire, le ministre indonésien des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a affirmé, soit à la façon bilatérale, soit par l'ASEAN, l'Indonésie est engagée à aider le développement inclusif au Birmanie. Le ministre Retno Marsudi a également déclaré que l'Indonésie a suivi de près le développement de l'État rakhine depuis les attaques contre les postes de police le 9 octobre 2016 dernier. L'aide humanitaire d'Indonésie étant reçue par le ministre de Protection sociale du Birmanie, le Dr Win Myat Aye, a témoigné par le premier ministre Oo Nyipu, sera distribué directement aux personnes dans les besoins, en particulier dans certains camps de réfugiés. En plus de remettre l'aide humanitaire, le ministre Retno Marsudi a également inauguré des écoles à Sitwe étant construites dedans de la communauté indonésienne. Les aides fournies aux musulmans rohingyas prouvent la préoccupation du gouvernement d'Indonésie aux problèmes qui affligent les musulmans rohingyas. Outre l'envoi des aides humanitaires, le gouvernement indonésien a fait également la diplomatie de sorte que le Birmanie peut résoudre le conflit avec les tribus musulmanes. Beaucoup d'assistants techniques tels que la construction d'écoles et l'établissement de santé qui ont été soumis par l'Indonésie. Il est souhaitable que ce qui est déjà donné, soit une assistance technique, soit la diplomatie, puisse créer des conditions favorables à la paix et à la stabilité qui est nécessaire pour le développement inclusif en Birmanie, en particulier l'État rakhine, de sorte que la paix peut être réalisée. Chers auditeurs, c'était le commentaire.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui pour le 23 janvier. Nous commençons le 23 janvier 1919, l'établissement du Parti fasciste italien. Le Parti fasciste était dirigé par Benito Mussolini. L'établissement de ce parti est basé sur un désir de revoir la puissance de l'Empire romain. Les membres du groupe qui sont toujours vêtus de noir ont une doctrine de la dictature. En 1922, Mussolini et ses collègues ont capturé la ville de Rome. Il se rendit maître de l'Italie au poste de premier ministre. Il a ensuite lentement élargi sa puissance dans toute l'Italie. Mais en 1945, lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Mussolini a été capturé par le groupe nationaliste italien et finalement condamné à mort par le groupe. La suite, le 23 janvier 1947, Megawati Soekarnoputri est née. Megawati Soekarnoputri, qui est née à Yogyakarta le 23 janvier 1947, est le cinquième président de l'Indonésie qui a servi à partir du 23 juillet 2001 jusqu'au 20 octobre 2004. Elle est la première présidente féminine indonésienne et la fille du premier président de l'Indonésie, Soekarno. Le 20 septembre 2004, elle a perdu de Susilo Bambang Yudhoyono dans les élections présidentielles deuxième tour en 2004. Megawati est devenue présidente après que l'Assemblée a tenu une session extraordinaire de l'Assemblée en 2001. La session extraordinaire se tient en réponse à l'étape du président Abdurrahman Wahid qui a gelé l'institution de l'Assemblée Parlement, le Parti Golkar. Megawati a prêté serment le 23 juillet 2010. Précédemment, de 1999 jusqu'à 2010, Elle était vice-présidente sous le président Abdurrahman Wahid. Megawati est aussi la présidente du Parti démocratique indonésien luttant depuis la scission du Parti démocratique indonésien en 1999. La dernière, le 23 janvier 1950, Knesset a déclaré Beitul Maqdis capitale d'Israël. Pour les musulmans, le 23 janvier 1950 est terrible parce que le Parlement israélien Knesset a annoncé Beitul Maqdis comme la capitale d'Israël. Cette annonce était seulement 2 ans de la formation de l'État illégal de l'Israël. Cette annonce recevait immédiatement une forte réaction des pays arabes et des musulmans comme Beitul Maqdis est l'une des villes saintes des musulmans et une fois devenait un centre de prière des musulmans. À la suite de l'opposition généralisée aux tentatives israéliennes pour obtenir la reconnaissance des pays concernés au transfert de capitale de Tel Aviv à Beitul Maqdis, il n'a pas eu accueilli comme prévu. Les pays du monde sont réticents à déplacer leurs ambassades de Tel Aviv à Beitul Maqdis, et jusqu'à présent, la capitale d'Israël reste à Tel Aviv. Chers British auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, encore merci de votre fidélité d'écouter la voix de l'Indonésie. Avant d'écouter le rappel de titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Sergent de l'antenne, voici donc la mise au point ayant pour le titre « L'Indonésie anticipe la politique de Donald Trump ». Donald Trump a officiellement pris ses fonctions en tant que 45e président des États-Unis vendredi le 20 janvier 2017. Le monde attend maintenant la mise en œuvre des promesses controversées de Donald Trump qu'il a faites pendant la campagne présidentielle à craindre de déclencher des turbulences dans l'économie mondiale qui est encore éclipsée par la léthargie. Cité le rapport du journal Média Indonesia, la ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a déclaré vendredi dernier à Bogor, lors de ses conférences devant 1500 étudiants de l'Université Udayana à Bali, que l'Indonésie devait être au courant de la politique monétaire du président Donald Trump. Selon elle, l'économie américaine, comme de nombreux autres pays dans le monde d'aujourd'hui, n'est pas encore stable. La ministre Sri Mulyani a dit « Ce qui s'inquiète par beaucoup de partis, Donald Trump est un perfectionniste avec ses diverses manières. Il augmentera la croissance économique de son pays. » Elle a estimé que cela aura un grand impact sur tout, l'un d'eux est l'inflation. La ministre Sri Mulyani a également souligné que si l'inflation aux États-Unis augmente, elle pourrait s'étendre à travers le monde, y compris l'Indonésie. Elle a ajouté que s'il y avait une inflation mondiale, l'économie mondiale serait ébranlée aussi. Elle a ajouté, en plus de l'inflation, les tendances du président Trump comme protectionniste doivent également être anticipées. Il y a la possibilité que Trump fermera les opportunités de marché pour de nombreux pays dans le monde, y compris l'Indonésie. Divers produits provenant de divers pays qui ont pénétré aux États-Unis peuvent être arrêtés pour fournir les opportunités aux produits locaux. Ces conditions seraient mauvaises pour la croissance économique des pays qui fournissaient des biens aux États-Unis, y compris l'Indonésie. Le porte-parole de la présidence, Johan Budi, a déclaré qu'avant de l'anticiper, le président Joko Widodo attend le meilleur du président Trump pour la poursuite de la coopération entre les deux pays. Johan Budi a déclaré que l'Indonésie continuera à surveiller les politiques du président Trump pour anticiper la réaction mondiale. Pendant ce temps, le vice-président indonésien Yusuf Kala a déclaré que l'Indonésie est considérée comme ne pas être directement touchée si le président Donald Trump gère une politique protectionniste. Ce qui était promis dans la campagne ne sera pas facile à mettre en œuvre à 100% aux États-Unis parce que ce pays adopte le libéralisme économique. Le vice-président Sifrala a donné un exemple. Si la taxe d'importation est augmentée, le prix des marchandises aux États-Unis va augmenter et le pouvoir d'achat des personnes peut être diminué. D'autre part, le vice-président du Parlement, Fahri Hamza, a demandé au président Joko Widodo d'anticiper la politique du président Donald Trump. Fahri Hamza, à Jakarta, vendredi le 20 janvier 2017, a suggéré que le gouvernement construise des usines pour répondre aux besoins antérieurs en se concentrant sur la rénovation de la production des aliments de base, en particulier les produits alimentaires, avec la façon de construire des infrastructures et des industries de base de l'agriculture et de l'industrie de transformation. Chers amis, c'était la mise au point pour ce soir. L'expert des relations internationales de l'Université Pajajaran, Tengku Reza Shah, a évalué que le gouvernement peut tirer parti de la direction du président américain Donald Trump pour contribuer à la réalisation de l'axe maritime. Pendant le leadership d'Obama, l'influence américaine dans la région d'Asie-Pacifique était vite comme ignorée. Ainsi, la République populaire de Chine a émergé, y compris avec les revendications dans la mer de Chine du Sud et de l'Est. Tengku Reza Shah a expliqué récemment que l'émergence de la Chine d'être un pays superpuissant a répondu par Trump avec une forte réaction sous la forme de la menace d'une escalade militaire. Il devrait être l'occasion pour le gouvernement indonésien d'offrir l'investissement et le développement des infrastructures de l'axe maritime qui est encore considéré comme pas trop fort. Selon Tengku Reza Shah, il y a certains domaines qui ne sont pas encore développés. Il pourrait être une possibilité de collaboration avec Donald Trump, étant donné le désir d'arrêter l'hégémonie chinoise en Asie-Pacifique. Toutefois, afin de décider si le gouvernement va opérer avec la Chine ou les États-Unis, exige une étude approfondie et une attitude prudente. Le président Joko Widodo a félicité Donald Trump pour son investiture en tant que le 45e président des États-Unis. C'est ce qu'a prononcé le président Joko Widodo après avoir participé au championnat de tir à l'arc 2017 à Bogor dimanche le 22 janvier 2017. Le président Joko Widodo est optimiste. Les relations entre l'Indonésie et les États-Unis seront plus solides et offrent des avantages pour les deux pays. L'optimisme est également transmis par le président Trump qui reconnaît d'avoir assez des amis et des affaires en Indonésie. Comme l'a déclaré le président Joko Widodo, citant l'affirmation du président Trump. Comme l'a signalé le secrétariat présidentiel à Bogor, l'ouest de Java, dimanche, Donald Trump a officiellement été 45e président américain après avoir été nommé vendredi le 20 janvier 2017 à Capitol Hill, Washington, D.C. Après l'inauguration, Trump va bientôt commencer la tâche de diriger les États-Unis pendant les 4 prochaines années. Le ministre de l'Industrie, Air Langga Hartarto, a apprécié le protocole d'accord entre Pupuk Indonesia Société Anonyme et Ferrostal afin d'accélérer le développement de l'industrie pétrochimique à la baie Bintuni, en Papouasie-Occidentale. Comme affirmé Air Langga Hartarto après avoir signé un protocole d'accord du PDG de Ferrostal, Klaus Lesker, au directeur d'investissement de Pupuk Indonesia Société Anonyme, Gus Rizal, à Düsseldorf, en Allemagne, samedi le 21 janvier 2017. Selon Air Langga, un protocole d'accord est une forme d'expression d'intérêt des deux sociétés afin d'évaluer les avantages des études communes et est aussi une référence dans la construction du projet. Selon le ministre de l'Industrie, le développement de l'industrie pétrochimique dans la baie Bintuni a plusieurs raisons, entre autres le potentiel pour le gaz naturel dans cette région qui a été identifié. 104 étudiants indonésiens accueillant les bourses d'études d'Al-Azhar sont arrivés entièrement au Caire en Égypte le 8 janvier 2017, ainsi que d'obtenir la direction et l'orientation de l'ambassadeur d'Indonésie au Caire, Helmi Fauzi, samedi le 21 janvier. Helmi Fauzi espère qu'il peut profiter de toutes les installations gratuites fournies par l'Université Al-Azhar en Égypte, aussi bien que possible. C'est ce qu'a affirmé Helmi Fawzi par un communiqué officiel envoyé au rédacteur en chef de l'Agence nationale des nouvelles de radio dimanche. Il a conseillé aux 104 nouveaux étudiants qui accueillent des bourses d'études pour être la lettre d'Azhari qui vivent en réalité la vision et la mission de l'Azhar, où ils sont censés être des ambassadeurs de l'Azhar qui portent et prêchent l'islam comme la religion qui apporte des bénédictions et la prospérité pour tout dans tout l'univers et maintenir le bon nom à l'Azhar. La ville de Bogor, l'ouest de Java, est devenue l'un des pilotes projets nationaux en matière de gestion des déchets à base communautaire et de fonctionnaires à partir de l'an 2015. En 2015, on a tenu la formation de la place de gestion des déchets de réutiliser, réduire et recycler à Jakarta, et la ville Bogor est désignée comme un lieu de pratique, donc aussi en 2016. C'est ce qu'a affirmé le responsable du contrôle de l'environnement, la conservation et le changement climatique de l'Agence de l'environnement de Bogor, Diane Herdiawan, dimanche. Il a dit, outre la ville de Bogor, il y a aussi une ville de Malang qui développe la gestion des déchets à base de l'appareil d'État et la résidence de Malang avec la gestion des déchets à base communautaire. Il a affirmé, depuis 2016, la municipalité de Bogor a collaboré avec la ville d'Hiroshima à travers la coopération entre KLHK et JICA avec le programme du village de climat commun et le groupe de contrôle de la pollution de l'environnement et le changement climatique. Ce programme encourage les gens à se déplacer de la verdure dans le parc à la ligne verte et la page entière au niveau local, tout en continuant le programme de tri des déchets à partir de maintenant. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous inviter à visiter un site touristique à Central de Java. Alors, restez avec nous sur la Voix d'Indonésie, le service international de la Radio République d'Indonésie. Outre par les zones courtes, vous pouvez également écouter notre émission via le streaming audio sur www.voi.co.id ou via RRI Play sur votre téléphone intelligent. Chers auditeurs, le changement du nouvel an lunaire en 2017 va bientôt arriver, à savoir le 28 janvier. Le magazine Couture ce soir vous invite aujourd'hui à voyager à Lasem, une ville en résidence de Rembang en province de Centrale de Java, qui a le surnom de Petite Chine. Lasem est située sur la côte nord de Java Centrale. La distance est d'environ 136 km de l'aéroport Ahmad Yani, Semarang. Lasem est surnommée la Petite Chine parce que, selon la littérature d'histoire, Lasem est courue comme première place de la communauté chinoise d'atterrir en Indonésie. Pas étonnant que si nous pouvions trouver des bâtiments avec l'architecture orientale qui est historique. Lasem est prévue pour être la principale destination touristique. De plus, Lasem s'inscrit actuellement le site de la vieille maison qui a été rénovée dans une arène de la compétition de l'UNESCO du prix de l'Asie Pacifique pour la conservation du patrimoine culturel. Chers auditeurs, le lieu historique à Lasem que vous pouvez visiter sont la pagode de Chu Un Kiong, comme la plus ancienne pagode à Java qui a été construite au 16e siècle, et la pagode historique Ji Yong Biu. Cette pagode est un monument mémorial de guerre entre la Chine Lasem et la communauté javanaise contre les Hollandais dans les années 1745-1753. Une autre pagode qui est aussi intéressante à visiter à Lasem est la pagode Po An Biu. Cette pagode a été construite en 1740. Chers auditeurs, bien que la SEM était surnommée la Petite Chine, la SEM a une société pluraliste. Comme preuve, il y a beaucoup de pondok pesantren ou d'écoles coraniques. Par conséquent, la SEM est également connue comme la ville de Santri ou des étudiants de l'école coranique. Dans la SEM, il y a également la mosquée Jami, où vous pouvez trouver quelques-uns des tombeaux des ulémas qui ont le rôle de répandre l'islam à la SEM. Le pluralisme de la société peut également être vu de l'édifice sacré bouddhiste, à savoir Vihara Aramaratanavana. Ce vihara est un complexe de sites composant de plusieurs niveaux où, à chaque niveau, nous allons trouver une statue de Bouddha dans diverses positions. L'une de ces positions est la position du Bouddha couché ou connue comme Reclining Bouddha. En plus des statues de Bouddha qui ont la couleur d'or, il y a aussi une miniature de Borobudur. L'emplacement de la miniature de Borobudur est situé séparé du complexe de statues de Bouddha au Vihara Aramaratanavana. Il est situé à environ 200 mètres au nord. Vihara Aramaratanavana est situé dans le village Sendong Choyo. Chers auditeurs, voilà notre voyage à la ville de la SEM, la résidence de Rembang, en province de centrale de Java, qui est une preuve concrète de l'unité dans la diversité en Indonésie. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir, avec le titre « La SEM, peut-être Chine à Rembang ». Demain, nous nous retrouvons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Chères auditrices et chers auditeurs, où que vous soyez, nous nous retrouvons dans la rubrique Apprendre l'indonésien qui va introduire les vocabulaires indonésiens et l'utilisation dans une conversation. Le sujet aujourd'hui est du contre-poste ou à la poste. Restez avec nous sur www.ve.c.id. Chers amis, comme d'habitude, je vais tout d'abord prononcer des vocabulaires et des expressions par rapport au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer lentement deux fois par mot et vous le répétez après moi. Di kantor pos. Di kantor pos. En français, à la poste. Sedikit masalah. Sedikit masalah. En français, petit problème. Pertama kali. Pertama kali. En français, première fois. Mengirim. Mengirim. En français, envoyer. Barang. Barang. En français, bien. Melalui. Melalui, en français, par. Tidak tahu. Tidak tahu, en français, ne pas savoir. Paket. Paket, en français, paquet. Membantu. Membantu, en français, aider. Khawatir. Khawatir, en français, ne pas s'inquiéter. Pergi. Pergi, en français, aller. Petugas kantor pos. Petugas kantor pos, en français, postier. Di sana, di sana, en français, là-bas. Luar kota, en français, autre ville. Di timbang, en français, peser. Ongkos kirim, en français, prix d'envoi. Berapa hari, en français, combien de jours? Sampai tujuan, destination. Tergantung, tergantung, en français, ça dépend de ou être dépend de. Permintaan, permintaan, en français, demande. Kilat, kilat, en français, grand vitesse. Biasa, biasa, en français normal. Jarak, jarak en français distance. Berat, berat en français poids. Bayar, bayar en français payer. Mudah, mudah en français facile. Bon, maintenant on va mettre ces vocabulaires et expressions dans une conversation. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement la conversation deux fois par phrase et vous allez donc la suivre après moi. Cette conversation est entre Rita A et Anna B à la poste. A. Anna, saya ada sedikit masalah. Je répète. Anna, saya ada sedikit masalah. En français. Anna, j'ai un petit problème. B. Ada masalah apa? Ada masalah apa? En français. Qu'est-ce qu'il y a? A. Ini adalah pertama kali saya mengirim paket melalui pos. Ini adalah pertama kali saya mengirim paket melalui pos. En français. C'est la première fois que j'envoie un paquet par la poste. A. Saya tidak tahu bagaimana cara mengirim paket. Je répète, saya tidak tahu bagaimana caranya mengirim paket. En français, je ne sais pas comment le faire. Ah, apakah kamu bisa membantu saya? Apakah kamu bisa membantu saya? En français, pourrais-tu m'aider? B, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak usah khawatir. En français, ne t'inquiète pas. B. Sekarang kamu pergi ke petugas kantor pos di sana. Sekarang kamu pergi ke petugas kantor pos di sana. En français, maintenant, vas-y à la poste là-bas. Katakan, kamu mau mengirim paket keluar kota. Katakan, kamu mau mengirim paket keluar kota. En français, dis au postier que tu veux envoyer un paquet à l'autre ville. B. Setelah ditimbang, baru kamu bisa mengetahui ongkos kirimnya. Je répète. Setelah ditimbang, baru kamu bisa mengetahui ongkos kirimnya. En français. Après qu'il pèse tes biens, il t'informeront le prix. A. Berapa hari biasanya paket sampai ke tujuan? Berapa hari biasanya paket sampai ke tujuan? En français. Combien de jours prend-il généralement vers la destination? B. Tergantung permintaan kamu. Je répète. Tergantung permintaan kamu. En français, ça dépend de ta demande. B. Mau yang kilat atau yang biasa saja? Mau yang kilat atau yang biasa saja? En français, il y a le service de grande vitesse et le service normal. B. Biayanya tergantung jarak dan berat paket. Biayanya tergantung jarak dan berat paket. En français, le prix dépend de la distance et le poids de ton paquet. B. Setelah membayar, paket akan segera dikirim ke alamat tujuan. Setelah membayar, paket akan dikirim. Salah, ulang. Setelah membayar, paket akan segera dikirim ke alamat tujuan. En français, après le paiement, le paquet sera envoyé vers la destination. B. Mudah bukan? Je répète. Mudah bukan? En français, c'est facile, n'est-ce pas? A. Ya, kedengarannya sangat mudah. Ya, kedengarannya sangat mudah. En français, oui, ça semble facile. A. Sekarang saya akan ke sana. Sekarang saya akan ke sana. En français, je vais maintenant. Ah, terima kasih. Terima kasih. En français, merci beaucoup. Chers auditeurs et auditrices, c'était l'édition Apprendre l'indonésien pour ce soir. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir. Comme la fin de notre émission, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers auditeurs et auditeurs de la Voix de la Nancy, voici le magazine de musique édition de lundi. Pour ce soir, comme chaque lundi, on vous introduit le rythme de la keroncong. Pour mieux connaître ce rythme, allez d'abord écouter la chanson de Sainte Dien Pesesa avec la chanson intitulée Untuk Sebuah Nama. Bonne écoute. Chers amis, vous venez d'écouter la chanson Untuk Sebuah Nama de chanteuse Dian Piesesa. Cette chanson raconte le manque d'une personne à son amant qui continue toujours comme tombé amoureux. Rencontre dans le rêve, ça nous fait heureux. Chers amis, cette chanson est composée par Panche Pondaak. Elle est popularisée par Miriam Belina, qui est connue aux années 80. Puis, Dian Piesesa rechante, mais au rythme de cronchong. Elle a la compétence de chanter cette chanson. Vous avez plusieurs albums elle a déjà publié. Deux albums en langue sundani et un album de cronchong et plus de 5 albums de pop. Alors, pour cette chanson, Untuk Sebuah Nama, se trouve dans l'album de cronchong lancé en 1995. Chers amis, allez encore écouter la deuxième chanson de Dian Piesesa intitulée Walau Hati Menangis. Bonne écoute. Chers amis, la chanson « Walau hati menangis » raconte à propos des relations amoureuses qui ne marchent pas bien. Malgré vivre seul, mais son cœur est blessé sans chercher l'autre. Cette chanson, en réalité, a le genre pop. Mais Diane Pessessa chante pour le cronchon. Cette chanson est composée par Panche Pondak. Pour Diane Pessessa, elle chante encore pour son tour aux certaines régions en Indonésie, ainsi les pays voisinages en Malaisie et Singapour. En mi-2016, Diane Pessessa a lancé un album après 20 ans sans aller au studio. Elle nomme son album « Aku Ingat Dirimu » ou « Je te connais ». Dedans, il existe 12 chansons, 2 nouvelles chansons et 10 anciennes. Diane Pessessa a réussi à mixer des chansons aux 80 avec la technique moderne pour adopter la situation actuelle, si bien que la musique est plus fraîche. Voilà, chers amis, c'était le magazine de Pelangi Nada ou magazine de musique édition de Rythme de Keroncong avec Diane Pessessa. Et avant de vous quitter, écoutez donc la deux dernières chansons de Diane Pessessa intitulées Kerinduan et Apa Salahku. Merci de votre fidélité et attention. Bonne écoute et au revoir.
êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.